Bonsoir, comment allez-vous ? Hier, j'étais à côté d'une amie sur une chaise longue, tranquillement, en train de prendre les derniers rayons du soleil, quand tout d'un coup, elle s'est mise à fondre en larmes. J'étais aussi étonnée que désolée, avais-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas ? Rapido, je rembobine notre conversation, mais non, assurément, je n'avais pas gaffé. Devant mon interrogation, elle me montre son téléphone, où s'affichait plein écran, sourire aux lèvres, son mari, en train de repeindre un volet de leur maison de Corse. Le mari était corse. Je dis « était » car il est mort il y a un peu plus d'un an. La maison n'a plus de problème de volet, elle a été vendue au plus offrant qui, hélas, était aussi le plus méchant. Mon ami est venu sur le continent, s'est battu pour retrouver un travail, un logement, des relations, de l'énergie, de l'envie de vivre. Il me semble qu'elle se maintient la tête hors de l'eau. Jusqu'à cette minute où, sans crier gare, son téléphone la lui a replongé la tête dans l'eau. Elle ne désirait pas revoir cette photo, en tout cas pas à ce moment-là. Nous avons déjà évoqué au petit bateau le subtil mécanisme des souvenirs, le complexe fonctionnement de la mémoire qui range, enfouit, fait apparaître et disparaître. Mais qui décide ? Eh bien nous, notre inconscient, notre cœur, notre cerveau, et peut-être d'autres choses mystérieuses restant encore à découvrir. Mais sûrement pas une entreprise à but lucratif qui nous emmène dans la joie ou la peine pour en tirer des dividendes.
Bonjour, je m'appelle Gaspard, j'ai 5 ans. J'aimerais bien savoir les souvenirs, comment ça marche. Au revoir.
Gaspard, 5 ans. Professeur Laurent Cohen, vous êtes professeur de neurologie à l'hôpital Salpêtrière qui est à Paris. Et vous avez écrit « Pourquoi les filles sont si bonnes en maths ?» et 40 autres histoires sur le cerveau de l'homme. Alors les souvenirs dont vous parle Gaspard, comment ça marche ?
Alors les souvenirs, c'est pas du tout comme une bande vidéo qu'on a stockée dans un tiroir ou bien une caisse pleine de photos. Quand j'essaye de me souvenir, par exemple, de ce que j'ai fait hier soir, où j'ai dîné, etc., eh bien, j'ai pas dans la tête une espèce d'image que j'aurais qu'à ressortir de ma tête. C'est pas comme ça. En fait, je dois reconstruire le souvenir. Je dois retrouver, disperser dans mon cerveau tous les petits morceaux de ce souvenir. Le souvenir du goût de mon repas d'hier, il est dans la partie du cerveau qui s'occupe du goût. Le souvenir des visages des gens qui étaient avec moi, eh bien, il est dans la partie du cerveau qui s'occupe de visages. Le souvenir de la musique que j'ai entendue en dînant, eh bien, il se trouve dans la région du cerveau qui s'occupe des sons. Donc, quand je reconstruis le souvenir de ce que j'ai fait hier soir, je suis obligé d'aller chercher dans mon cerveau tous ces petits morceaux de souvenirs et les remettre ensemble et les reconstruire. Par conséquent, puisque c'est un travail de reconstruction, eh bien, c'est assez fragile. Et il arrive qu'on puisse faire des erreurs en reconstruisant nos souvenirs du passé. Donc, c'est pas parce qu'on se souvient de bonne foi de quelque chose que ça s'est réellement passé exactement comme ça. Ça pose des problèmes, d'ailleurs, par exemple, aux policiers, aux juges, etc. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient voir le juge ou le policier et lui dit « Moi, j'ai vu ci, j'ai vu ça », peut-être que c'est vrai, mais peut-être que c'est pas tout à fait exact. Les souvenirs peuvent être modifiés. Par exemple, si quelqu'un a assisté à un cambriolage et qu'un policier vient lui demander peu après « Dites-moi, comment était habillé le grand blond qui est sorti de la banque en courant ?» Eh bien, simplement parce que le policier vous a dit « Comment était habillé le grand blond ?» même si le gaillard qui est sorti de la banque était un petit brun, eh bien, vous allez modifier votre souvenir, vous allez être influencé par ce qu'on vous a dit. Et maintenant, à partir de ce moment-là, quand vous penserez à ce que vous avez vu, vous imaginerez quelqu'un de blond au lieu de quelqu'un de brun. Autrement dit, les souvenirs sont malléables.
Le dernier livre de Laurent Cohen, paru en juillet 2020, a un titre qui nous plaît beaucoup à nous à la radio puisqu'il s'appelle « Comment lire avec les oreilles » et 40 autres histoires sur le cerveau de l'homme édité chez Odile Jacob. Laurent Cohen est professeur des universités, praticien hospitalier à l'université Pierre et Marie Curie pour l'hôpital de la Salpêtrière et aussi directeur de recherche à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Ce soir, dans les petits bateaux, eh bien Camille a demandé à Claire Delamarche qui a inventé le piano et quand. Pourquoi il n'y a pas de tremblement de terre en France, a demandé Héloïse à Christophe Vigny qui a dit que ça n'était pas tout à fait exact. Et Marie a demandé jusqu'à quel âge on avait le droit de passer son bac à Françoise Noël Joty qui est proviseure du lycée pour adultes de Paris. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Ancien, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir pourquoi la queue des chiens bouge en permanence. Au revoir, merci.
Merci Ancien, permanence. C'est pas si facile que ça à dire. Joël Dehaas, vous êtes vétérinaire comportementaliste, auteur de Tout sur la psychologie du chien, édité chez Odile Jacob. Vous avez, entre parenthèses, écrit le même livre pour les chats. Est-ce qu'il a raison, Ancien ?
La raison pour laquelle les chiens bougent la queue tout le temps. D'abord, ils bougent pas la queue tout le temps, mais ils bougent la queue quand ils ont une émotion. Dès qu'ils sont émus, dès qu'ils sont excités, la queue se met à vibrer, à bouger. Elle bouge aussi quand le chien bouge, quand le chien marche. Elle est utile pour l'équilibre du chien. Donc elle donne un balancier derrière pour permettre l'équilibre et permettre la marche à quatre pattes.
Donc ça c'est physique.
Ça c'est physique, mais aussi émotionnel parce que la queue va exprimer très très fort l'intensité des émotions du chien. Donc la queue va se mettre à battre de côté quand le chien est excité, quelle que soit l'excitation de colère ou l'excitation de joie. Dans la peur aussi, mais la peur a tendance à rigidifier la queue et à la rendre toute raide entre les pattes. Et donc la queue bouge beaucoup moins à ce moment-là. Mais surtout dans la colère et dans la joie, le chien va commencer à bouger, à balancer la queue. Quand il est content, toute la queue et tout l'arrière-train remue. Quand il est fâché, il n'y a que la queue qui remue, même de façon très excitée. Et le reste du corps est rigide et souvent le poil se redresse et les oreilles se mettent en avant. Et puis la queue peut bouger dans différentes directions. Il commence à faire des études sur le fait, on regarde la queue, est-ce qu'elle bouge plus à droite ou plus à gauche?
Ah bon?
Parce que les chiens sont aussi gauchers ou droitiers. Mais ça donne aussi un impact sur leur aspect émotionnel ou leur aspect rationnel. Et puis il y a la queue qui fait des 8, verticaux, horizontaux, et puis de la queue qui fait des cercles vers la droite ou des cercles vers la gauche. Tout ça est à l'étude pour le moment. Qu'est-ce que ça signifie?
Vous filmez, puis vous regardez au ralenti?
On filme, on regarde au ralenti, on regarde les circonstances, et on regarde. Je vois souvent que la queue tourne à gauche ou à droite, mais elle fait des cercles quand le chien a satisfaction de ce qu'il désirait obtenir.
C'est bien de savoir
quand
ça.
Quand un chien aboie sur quelqu'un qui vient, la personne s'en va, le chien poursuit avec la queue qui fait des cercles.
Ça veut dire que...
Il est content que la personne s'en aille. Il est satisfait dans son envie que la personne s'en aille.
Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais enfin, un bon coup de queue de chien sur une table basse peut vous renverser 18 verres d'un coup. Hein.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner. Enchaîner, enchaîner. C'est juste après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
Quelle est belle cette dernière chanson de Bernard Lavilliers. Bernard Lavilliers dont ce sera l'anniversaire le 7 octobre prochain, une dizaine de jours pour y penser. Ce n'est pas assez pour vous, vous aimez bien voir plus loin. Alors il sera à l'Olympia, à Paris, du 16 au 19 juin 2022.
Les petits bateaux sur France Inter.
Je vous ai dit tout à l'heure que Les petits bateaux était une émission où des enfants posaient des questions et des spécialistes leur répondaient.
Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 17 ans. Et je voudrais savoir jusqu'à quel âge on a le droit de passer son bac. Je vous remercie. Au revoir.
Marie, 17 ans, jusqu'à quel âge a-t-on le droit de passer son bac ? Françoise Noël Joty, vous êtes proviseur dans un lycée, mais un lycée à Paris un peu particulier puisqu'il s'agit d'un lycée d'adultes, le lycée d'adultes de la ville de Paris. Et par ailleurs, vous avez écrit « Je croyais que l'école ne voulait pas de moi ». Alors jusqu'à quel âge, demande Marie, on peut passer son bac ?
Eh bien Marie, en fait, il n'y a pas de limite d'âge.
Ah bon ?
Et oui, le bac peut se passer à tout âge. On peut le passer très jeune, avant 18 ans, mais on peut aussi le passer à 80 ou 90 ans. Il semblerait que le doyen du baccalauréat en France, dans ces dernières années, avait justement cet âge assez avancé de 90 ans, mais pourquoi pas ?
Pas mal. Donc 90 ans le plus âgé, et la moyenne à peu près de vos élèves, si moyenne on peut faire ?
Au lycée d'adultes, la moyenne d'âge c'est 30 ans.
Ah oui, ils sont hyper jeunes.
Alors, il y a effectivement beaucoup de jeunes, ou en tout cas des gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui ont déjà essayé de travailler, qui se sont aperçus qu'il valait mieux avoir un diplôme. Il y a aussi des gens plus âgés. Je pense que notre doyen au lycée avait 70 ans quand il a passé le bac. Il a souhaité rester discret. Donc, quand les médias se sont adressés à nous pour qu'il soit un petit peu visible sur à la télé et autres, il a refusé. C'est quelqu'un qui était là de façon très confidentielle. Ce qui est sûr, c'est que passer le bac, c'est une chose, mais l'important pour eux, c'est surtout de préparer le bac. Parce que le bac, c'est un parcours.
C'est intéressant. J'allais dire, c'est un petit peu le contraire des élèves de terminale. En fait, ils s'en fichaient un peu du programme. Enfin, moi, j'ai un peu honte, c'était, je crois, mon cas. Mais en revanche, j'avais envie de l'avoir.
Et oui, souvent, les personnes qui viennent vers nous, quand elles ont donc un âge déjà un peu avancé, disent, ben, toute ma vie, ça a été un manque cruel, un manque majeur. Et moi, j'aurais bien voulu passer le bac auparavant. Mais au fond, le bac, c'est la cerise sur le gâteau. Ce qui m'intéresse, c'est l'ouverture à la culture générale. C'est recommencer à mettre, en gros, mon cerveau en marche, apprendre, savoir comment reformuler, savoir contextualiser, savoir comparer. C'est-à-dire que quand il y a une conversation, je voudrais pouvoir y participer en sachant que ce que je dis a un peu de valeur parce que je l'ai expérimenté lors d'un parcours d'enseignement. Et c'est surtout ça qu'ils viennent faire au lycée d'adultes. C'est vraiment apprendre plus que avoir le baccalauréat.
Je comprends. Est-ce que, Françoise Noël Joty, vous avez été proviseur d'un lycée de lycéens d'un âge classique. Plus classique ?
Alors, pas du tout. Je ne viens pas de l'éducation nationale. Je suis à la ville chargée de mission. Moi, j'ai une formation de pédagogue, d'abord, professeur en français langue étrangère et également en organisation. J'ai repris moi-même des études assez tardivement, à l'âge de 40 ans, alors que j'avais 3 enfants. Et j'ai voulu aussi, effectivement, évoluer professionnellement en reprenant mes études. Ça a beaucoup compté, d'ailleurs. Et ça compte toujours parce que je comprends ce qui se passe quand on est en formation, notamment des sentiments un peu de frustration. Quand on recommence à apprendre, on s'aperçoit de tout ce que l'on ne connaît pas. Des sentiments d'inconfort aussi. C'est pas facile de revenir dans une salle de classe, de s'asseoir à nouveau sur un banc, de se taire longuement en écoutant le professeur ou les autres, d'arriver à participer à un débat sans s'émouvoir, sans impulsivité. Donc on apprend beaucoup à l'école, mais ça suppose aussi beaucoup d'efforts de sa part. Apprendre, c'est jamais facile.
Quelques précisions. Au lycée pour adultes, il n'y a pas que la terminale pour passer son bac, c'est un lycée. Il y a donc seconde, première, terminale, même plusieurs secondes, plusieurs premières et plusieurs terminales. Et enfin, le livre de Françoise Noël est épuisé, mais on peut le trouver d'occasion.
Bonjour, je m'appelle Héloïse, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi il y a des tremblements de terre dans d'autres pays, mais pas en France.
Bonsoir Héloïse, nous proposons ta question à Christophe Vigny qui est directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire de géologie de l'École normale supérieure. A-t-elle raison Christophe Vigny, Héloïse ?
Oui, elle a raison, en partie, il faut dire en France métropolitaine. Effectivement, en France métropolitaine, des tremblements de terre, il y en a, mais pas beaucoup, et puis des petits. Outre-mer, aux Antilles, par exemple, alors là, il y en a, et puis des plus gros, et puis des plus nombreux. Donc il faut quand même faire un petit peu cette distinction. Héloïse, elle habite probablement en France métropolitaine, c'est pour ça qu'elle pense que chez nous, il n'y en a pas. Et effectivement, il y en a, mais il y en a peu, pour une raison qui n'est pas très difficile à comprendre. Les tremblements de terre, il y en a parce que la planète Terre a des plaques tectoniques qui bougent les unes par rapport aux autres et qui se frottent les unes contre les autres. Et les tremblements de terre, dans leur très grande majorité, ils ont lieu seulement sur les frontières entre les plaques. Là où les mouvements font que les failles les frottent et les plaques frottent les unes contre les autres.
C'est le pare-choc qui se froisse, quoi.
C'est ça. Et à l'intérieur des plaques, quand on est loin des frontières, c'est assez calme et tranquille. Alors, en France, on est assez loin des frontières de la plaque sur laquelle on se trouve. La plaque sur laquelle est la France, c'est la plaque eurasiatique, bien sûr. Les frontières de la plaque eurasiatique, elles sont avec les plaques qui sont autour de nous. Les plaques qui sont autour de nous, au sud, c'est la plaque africaine. À l'ouest, c'est la plaque américaine, l'Amérique du Nord. Et puis à l'est, c'est assez compliqué. Il y a la plaque pacifique qui rentre dans la plaque philippine, avec la plaque indo-australienne. Bon, mais tout ça, c'est très loin. C'est à des milliers de kilomètres à l'est de la France.
L'Afrique, en revanche, c'est pas très loin.
L'Afrique, c'est moins loin. Et c'est bien pour ça qu'en France, il y a quand même un petit peu des tremblements de terre vers les Alpes et les Pyrénées. La chaîne de montagnes des Alpes, c'est une chaîne de montagnes de collision, à cause de la collision entre l'Afrique et l'Europe, qui l'Afrique monte vers le nord lentement, quelques millimètres par an, et depuis un certain temps, des millions d'années. Et donc ça a créé une chaîne de montagnes entre ces deux grandes plaques, l'Afrique et l'Europe. Et puis, alors, cette chaîne est très compliquée, et puis il y en a une partie qui est chez nous en Europe, les Alpes, il y en a une partie qui est en Afrique, dans les Maghrébides. Et la déformation qui est distribuée sur toute cette grande zone de frontière entre les plaques a fait toutes ces chaînes de montagnes entre les deux plaques. Alors, les tremblements de terre, pour revenir à la question d'Héloïse, il y en a un petit peu partout dans ces zones-là. Mais comme la déformation est petite, c'est seulement quelques millimètres par an là, ça fait que des petits tremblements de terre. Pour trouver des gros tremblements de terre, il faut aller là où la déformation est grande, là où les plaques vont vite. Et là où les plaques vont vite, ben par exemple la plaque pacifique qui bouge à 9 cm par an, ça vous fait des tremblements de terre plus gros sur les bords de la plaque pacifique. Donc par exemple, en Californie, au Japon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tous ces endroits-là où vous retrouvez des failles qui bougent à presque 10 cm par an et des tremblements de terre beaucoup plus fréquents et beaucoup plus gros.
9 cm par an ?
Oui, les vitesses les plus grandes de la tectonique des plaques à la surface de la Terre, c'est de la dizaine de centimètres par an. Et là, on arrive à des séismes très importants ou en tous les cas beaucoup plus fréquents.
Girl, who has Sur France Inter, quel bonheur! Cet été, j'étais en Boise. Il y a trois célébrités dans cette ville que les habitants sont contents d'évoquer. François Ier, Léonard de Vinci et Mick Jagger.
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 7 ans et je voudrais savoir quand le piano a été inventé. Merci.
Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir depuis combien de temps le piano existe-t-il. Merci de me répondre.
Bonsoir Camille et Lucas. Claire Delamarche, vous êtes musicologue, vous êtes aussi la conservatrice de l'orgue à l'Auditorium Orchestre National de Lyon. J'imagine que la réponse aux questions de Camille et Lucas doit être compliquée.
Oui, alors c'est toujours compliqué quand on dit quand tel instrument a été inventé, parce que le moment où on a donné le nom, on a dit ça c'est tel instrument, en l'occurrence un piano, mais il n'y a jamais quelqu'un qui l'invente à partir de rien. Il y a toujours des choses qui existent auparavant, dont il s'inspire, qu'il améliore, etc. L'inventeur officiel, c'est dans tous les dictionnaires, il s'appelle Bartolomeo Cristofori et il l'a inventé vers 1600 quelque chose. Alors qui était ce Cristofori? C'était ce qu'on appelait un facteur d'instruments de musique. Donc c'est la personne qui fabrique les instruments. Et en fait, il a passé sa carrière auprès du prince Ferdinand de Médicis. Les Médicis, c'était une très grande famille de princes qui régnait sur une partie de l'Italie actuelle qui s'appelle la Toscane et dont la capitale est Florence. Alors Camille et Lucas, vous avez peut-être entendu, parce que c'est une ville qui est très riche sur le plan culturel. Il y a eu des grands peintres, des hommes de lettres, les premiers qui ont écrit des grands poèmes ou des grands romans en italien, ils étaient de Florence. C'est un peu le berceau de la civilisation moderne italienne à partir de la Renaissance. Et donc ce prince, très érudit, très épris de musique, avait une grande collection d'instruments à clavier. Et en l'occurrence, le piano n'existait pas, donc lui, il avait des clavecins, il avait des clavicordes, il avait plusieurs instruments. Et pour entretenir toute sa collection et fabriquer de nouveaux instruments, il a engagé Bartolomeo Cristofori. Et c'est chez ce prince que Cristofori a eu l'idée de créer le piano. Alors, de quoi il est parti? Il est parti d'un instrument qui s'appelait le clavicorde. En fait, il y avait deux grands instruments à clavier qu'on pouvait mettre chez soi. Il y avait l'orgue dans les églises et puis chez soi, on avait le clavicorde et le clavecin. Le clavecin, il y a un clavier qui est relié à des petites plumes d'oie. Et la plume d'oie va gratter les cordes, un peu comme tu grattes avec ton doigt sur la guitare. Mais sauf que on appuie sur la touche pour faire une note et la petite plume correspondante va gratter la bonne corde. Le problème du clavecin, c'est que quand on appuie sur la touche, la petite plume d'oie, qu'on appuie fort, qu'on appuie longtemps, doucement, pas longtemps, ça fait toujours
le même grattage.
Le même grattage. Donc on peut pas faire de nuances, qu'on appelle des nuances, jouer fort au piano. Sur le clavicorde, c'est différent. Quand on appuie sur une touche, il y a un petit marteau qui vient frapper. Alors si on appuie fort sur la touche, on a un son plus fort. Et l'inverse, si on appuie doucement, on a un son plus doux. Mais le clavicorde, il était petit, il avait un son très faible. Cristofori, il a réfléchi à tout ça, il a créé le piano qui avait un peu la puissance du clavecin et le principe du clavicorde qu'il a amélioré avec ce qu'on appelle un échappement. Donc, quand le marteau frappait, tout de suite, il revenait à la position de départ et la corde vibrait. Et en plus, il a ajouté ce qu'on appelle une table d'harmonie. C'est quelque chose qu'on met au fond du piano pour faire résonner plus. Et donc, il a eu cet instrument qu'il a appelé le forte piano. En italien, forte, ça veut dire fort. Piano, ça veut dire doucement. Parce qu'il était capable de jouer fort et de jouer doucement.
Non, ça veut dire ça, piano. Mais j'y ai jamais pensé.
Alors après, on a abrégé, on a dit piano. Parce que en France, on est feignant, alors on dit juste piano. En italien, ils disent toujours piano forte pour dire le piano.
Eh bien, voilà une information. Merci Claire Delamarche. Ceux qui ont la chance ou la malchance de vivre en région parisienne peuvent voir jusqu'au 10 janvier prochain au musée de l'Orangerie dans les jardins des Tuileries une exposition consacrée au peintre américain Koenig et aussi au peintre russe Chaïm Soutine. Ce garçon, Chaïm, arrive à Paris après bien des souffrances. Il se lie d'amitié avec Modigliani, qui a 10 ans de plus que lui à peu près. Modigliani le présente à son marchand de tableaux, Léopold Zborowski. Zborowski, c'est lui qui faisait en douce restaurer les toiles que Soutine détruisait. Et quand Soutine s'en apercevait, ça le mettait dans une rage folle. Mais ce n'est pas ça que je voudrais vous raconter. C'est l'épisode du dîner et du portrait. Un jour, Zborowski décide d'inviter Soutine et Modigliani à dîner. Mais sa femme détestait Soutine, elle le trouvait répugnant et mal élevé, ce qui était vrai. Soutine traîne à table, il a des maux d'estomac, il mange lentement et salement. Alors, l'épouse de Zborowski, qui était déjà au summum de l'exaspération, craque quand Modigliani se lève et commence à barbouiller sur la porte de la salle à manger. Il entreprend, à même cette porte, de peindre le portrait de son ami Soutine le moche. C'en était trop pour cette pauvre fille qui se met à hurler contre les deux peintres, elle ne peut plus les supporter, c'en est trop. Et là, Modigliani lui aurait dit un petit peu comme Jean Reno dans Les Visiteurs, « Tais-toi, vilaine, dans quelque temps ce portrait vaudra le prix de ton appartement et peut-être même celui de l'immeuble. » La suite, vous la connaissez. Chaïm Soutine et Willem de Kooning, la peinture incarnée jusqu'au 10 janvier au musée de l'Orangerie à Paris. Podcastez mes amis, podcastez ces petits bateaux, réécoutez-les et venez sur notre site, tout ça par franceinter.fr. Marjorie Devoucoux, Stéphane Combe, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham, Sofiane Actib, tout ça dans le désordre. Vous nous retrouverez dimanche prochain à partir de 19h30. Et puis à suivre, Jérôme Garcin et le Masque et la Plume, un Masque et la Plume consacré ce soir au cinéma.